Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti!
Bonjour à tous et bienvenue sur ce numéro un petit peu particulier du rendez-vous jeu. En fait, j'avais prévu de ne pas faire d'épisode, mais il s'est quand même passé quelques petits trucs. Et donc, je suis en vadrouille et je suis venu dans un café pour pouvoir enregistrer tranquillement, puisque je suis dans une toute petite pièce chez moi avec le petit bébé qui est malade et qui crie absolument tout le temps. Ou presque, non, j'exagère, il est gentil. Mais bref, je peux donc pas faire d'épisode depuis chez moi aujourd'hui en tout cas. Et donc, je suis venu à l'extérieur, c'est pour ça que vous allez avoir des bruits de café, peut-être même qu'on va être interrompu, il va y avoir les voitures qui roulent derrière et tout, c'est la vie parisienne. Donc, en plus d'avoir des news sur le jeu vidéo, vous aurez un petit extrait de la vie parisienne et de Patrick qui s'interrompt pour boire, hop, son thé. Donc, je me présente, je suis Patrick Béja, pour ceux qui ne me connaissent pas, et cette émission, c'est le rendez-vous jeu, et donc on va parler de toute l'actualité du jeu vidéo, juste avant l'E3 qui commence la semaine prochaine, ce qui va être évidemment le moment où on va tous s'amuser comme des fous à commenter toutes les conférences, à être un petit peu méchant avec les constructeurs et les éditeurs. C'est le moment où tous les gamers s'unissent pour dire du bien et du mal de tout ce qui est présenté. Mais ça, c'est la semaine prochaine. Pour le moment, on a des news sur Battlefield, sur des news pré-E3, bien sûr. Mes impressions sur Detroit Become Human, premières impressions, hein, j'ai joué un petit peu. Et puis plein d'autres petites news. Donc, on va se lancer tout de suite avec... Battlefield 5 et le reveal qui a suivi Call of Duty. Ils ont lancé les informations avant l'E3, sans doute volontairement pour sortir un petit peu, pour surnager de la part des deux gros FPS traditionnels presque annuels. Donc, Battlefield 5, bah écoutez, c'est du classique Battlefield, on va dire. Ils reviennent à la Deuxième Guerre mondiale comme... ça avait été le cas pour Call of Duty l'année dernière. Il y a eu une présentation un petit peu... Bon, on s'en fout de la présentation, à vrai dire, mais c'était marrant avec Trevor Noah. Enfin, marrant. Un petit peu awkward, cringy, comme on dit en anglais, un petit peu pas super. Moi, j'étais un petit peu mal à l'aise. C'était un petit peu malaisant, on dirait, en français. Mais bon, bref, c'était quand même une belle présentation avec trois éléments principaux pour le jeu. La partie solo, qui est composée de War Stories, donc des petits scénarios, des arcs différents pour plusieurs personnages, dont une femme, on va y revenir. Combined Arms, qui est une version co-op du jeu. Ce qui est intéressant parce que moi, je qui suis pas un grand fan de Battlefield, je savais même pas qu'il y avait vraiment de partie coop. Je suis pas sûr que ça va me pousser à l'acheter, mais c'est bon à savoir qu'il y a effectivement une partie coop. Je crois que c'est la première fois dans la série. Et il y a la partie multi qui est classique, et puis un nouveau type de carte qui est Grand Operations, qui vient s'ajouter aux Operations, qui est des missions classiques, on va dire, en multi, en PVP. Là où c'est intéressant, c'est que les Grand Operations se passent sur plusieurs étapes d'affilée, sur plusieurs jours de combat, en fait. Donc, on va jouer 3 ou 4 cartes en fonction de comment ça se passe, en multi, et il va y avoir un vrai problème d'attrition des ressources qui va faire que ça va être plus ou moins tendu en fonction de la manière dont ça se passe pour vous et pour l'équipe adverse. Cette idée, disons que sans être réaliste, Battlefield a toujours essayé d'être un petit peu plus, de pencher un petit peu plus vers le réalisme que son concurrent Call of Duty, qui est plutôt arcade. Et là, on a cette idée que les conflits vont se passer pas juste sur une bataille, mais sur plusieurs batailles à la suite. Donc c'est une idée intéressante, que je trouve intrigante, on va dire. Il y a des petites fonctionnalités en plus, enfin des petites fonctionnalités dans au niveau gameplay, on pourra établir des fortifications qui vont venir comment dire, réparer les endroits qui ont été détruits, puisque dans Battlefield, une des fonctionnalités, c'est qu'on peut vraiment détruire l'environnement. Donc là, on peut en plus le reconstruire, histoire de pouvoir se protéger et pas être toujours à poil quand le bâtiment dans lequel on était s'est effondré. Et puis, il y a la fonctionnalité, pas au niveau du gameplay, mais au niveau de la progression, on va dire, de la compagnie, où on va pouvoir construire... accumuler des personnages dans notre escouade et sélectionner les personnages qu'on va jouer, donc les collectionner en quelque sorte. Il n'y aura pas de, au-delà des fonctionnalités, un truc intéressant, c'est qu'il n'y aura pas de loot box, il n'y aura pas de pass premium. Ça, c'est le cas, c'était le cas dans Battlefront 2. Ah, je ne sais pas si vous entendez le, le klaxon là, mais il y a quelqu'un qui est visiblement rentré dans le pare-choc d'une voiture un petit peu plus loin. Ça fait vraiment ambiance parisienne, ces visites de la ville en même temps que vous écoutez l'émission. Donc, on espère qu'il ne va pas durer trop longtemps. Mais ce que je disais, c'est qu'il y avait déjà dans Battlefront 2 la fonctionnalité, en fait, de ne pas avoir de pass premium, de manière à ce que tous les... utilisateurs puissent avoir les mêmes cartes. Donc en fait, toutes les cartes et tous les contenus additionnels est livré gratuitement, en quelque sorte. Évidemment, pour Battlefront, il y avait les lootbox et le scandale énorme que ça a créé il y a quelques mois, mais sur le Battlefield 5, ils ont bien précisé qu'il n'y aurait pas de lootbox. Ils ont été même assez emphatiques sur le sujet. Et donc, comment est-ce que là... Ah, mais c'est pas possible, faut se calmer là, monsieur. Donc, comment est-ce que les utilisateurs, les joueurs vont pouvoir monétiser, ou plutôt comment est-ce que le studio va pouvoir monétiser le contenu additionnel? Eh bien, a priori, ça sera en achetant des objets cosmétiques uniquement. Donc, en achetant directement, il n'y aura pas de loot box, mais en achetant des objets cosmétiques, bien sûr, puisqu'on ne va pas pouvoir acheter d'objets qui vont permettre de gagner en puissance. Donc, ce n'est pas du pay to win. Donc, voilà pour la tendance. Et à mon avis, c'est limite plus intéressant pour la tendance, pour l'industrie, que pour l'évolution du jeu lui-même. Bon, c'est toujours intéressant de voir comment, où le jeu va, hein, parce que Battlefield, c'est quand même un gros morceau. Mais pour l'industrie, je me demande si ça ne préfigure pas de ce qui va se passer à la fois à l'E3 et sur la fin d'année, qui est cette frilosité par rapport au lootbox, qui est bien compréhensible vu les scandales qu'on a eus l'année dernière. Donc voilà, on verra comment ça se passe pour ce jeu-là, et puis pour l'E3. Je précise tout de même une dernière chose sur Battlefield, cette petite controverse qui a eu lieu à propos du trailer et de la couverture, puisque c'est un personnage féminin qui est le héros de cette édition de Battlefield. Et bon, elle est hyper badass, hein, bien sûr. Le trailer est hyper dynamique et c'est une Norvégienne, je crois, qui fait de la résistance. Puisque, bien sûr, on a tellement vu la Deuxième Guerre mondiale, là, ils ont précisé qu'ils allaient essayer de nous emmener dans des théâtres d'opérations qu'on n'a pas encore vus. Donc, j'imagine que ce type de lieux comme la Norvège ou les pays nordiques pourraient... Enfin, des pays peut-être qu'on a moins vus généralement dans ce genre de jeu. Et donc, le personnage féminin qui est mis en avant a fait remonter un petit peu les énervés un peu crasseux de l'Internet, qui ont bien sûr ressenti le besoin de venir expliquer que les femmes ne faisaient pas la guerre, que c'était irréaliste, etc., etc. Et que donc c'était que DICE cédait aux demandes des social justice warriors, etc., etc. Alors, bien sûr, évidemment, ça, c'est même pas nécessaire de le dire, mais on va le dire quand même. Évidemment qu'il y a eu plein de femmes qui ont fait la guerre dans la résistance et ailleurs. Enfin, c'est évident. Ensuite, le réalisme n'a pas forcément toujours été le fort de ce genre de jeu. Il y a une image qui a beaucoup tourné avec comment ils avaient réussi à mettre trois personnes avec un lance-flamme sur un chameau dans le Battlefield précédent. Donc voilà, le réalisme, évidemment, ce genre de personnes demandent le réalisme là où ça les arrange, et c'est bien sûr un prétexte à l'expression d'une intolérance plus ou moins forcée. Et puis ensuite, il y a le fait que on a eu beaucoup de réactions à ces réactions, donc des gens qui disaient « Ah, mais voilà, c'est n'importe quoi, qu'est-ce que vous racontez ? Il y a eu des femmes, il y a eu des machins. » Mais j'ai quand même l'impression, pour outrancier que soient ces réactions, j'ai quand même eu l'impression qu'il n'y en a pas eu énormément, même si le subreddit de Battlefield a ressenti le besoin de mettre en première page, enfin dans le en haut de la page, merci de ne pas venir pour créer de la controverse. Ici, on parle du jeu et pas de ce genre de d'ânerie. Il n'empêche, j'ai eu l'impression quand même que c'était un mouvement relativement limité et qu'on a eu beaucoup de réactions outrées par ce mouvement et pas énormément de réactions de ce mouvement lui-même. Alors, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui en ont vu beaucoup de ces réactions un petit peu ridicules, mais voilà, je voulais le mentionner parce que je me dis, à la limite, on est presque en train de voir que les combats pour la représentativité sont en train vraiment de porter leurs fruits, parce qu'on a de plus en plus de gens qui se rendent compte que l'une des grandes critiques que faisait le mouvement Gamergate à l'époque, c'était « Ah, ça va changer les jeux, ça va les rendre moins bien, ça va pervertir l'intention artistique des développeurs, etc. etc. » On est bien sûr en train de se rendre compte que ce n'est évidemment pas le cas. Et les gens qui étaient un petit peu séduits par ces argumentaires artificiels se rendent compte aussi que, bah oui, les jeux qui ont des personnages féminins sont pas forcément moins bons. Il y a Tomb Raider bien sûr, mais au hasard Horizon Zero Dawn ou d'autres, et où la représentativité est importante, bah les jeux sont pas forcément moins bons. Donc bref, je me demande si on n'est pas un petit peu sur la fin, qui va prendre des années encore, et qui il y aura toujours des gens pour penser comme ça, hein. Je veux dire, on est en 70 ans après la Deuxième Guerre mondiale et il y a toujours des nazis et des néo-nazis. Donc, ils disparaîtront jamais totalement. Et avec Internet, on les entendra toujours. Mais je me demande si on n'est pas en train d'arriver sur la fin de cycle de ce mouvement gamer-gaétien et assimilé. Bon, j'espère que l'avenir ne va pas me faire mentir. Et quand je dis la fin de cycle, on en reparlera tout à l'heure à propos d'autres choses, ça va prendre encore des années, hein. Évidemment, on n'en est pas encore sorti. Et il faut... Enfin bref. Donc, enchaînons sur autre chose. Battlefield 5, c'est terminé. Les annonces pré-E3, il y a eu d'autres éditeurs qui ont ressenti le besoin d'annoncer leur jeu, plus ou moins à cause de... leaks parfois, mais il y a eu d'autres éditeurs qui ont ressenti le besoin d'annoncer leur jeu avant le 3. Alors il y a Pokémon Let's Go, qui est le premier Pokémon sur la Switch, et qui est un petit peu bizarre parce que c'est à la fois une sorte de mariage entre Pokémon et Pokémon Go, bien sûr, le jeu qui a eu beaucoup de succès sur mobile, mais en plus c'est une sorte de remake, réimagination de Pokémon Yellow, c'est Red and Yellow, enfin Rouge et Jaune, qui était donc parmi les premiers de la série. Et là, on va avoir Pokémon Let's Go, Pikachu et Eevee, ou Evoli en français, qui va sortir sur Switch en fin d'année, si je ne m'abuse. Et donc, on a des trucs du genre, des trucs intéressants. On peut jouer avec un seul Joy-Con, et du coup, on peut jouer à deux, avec deux Joy-Con. Donc, on n'a même pas besoin d'avoir deux manettes. On peut utiliser les deux manettes fournies avec la console pour jouer à deux, ce qui est assez intéressant. Il y a, comme je disais, des connexions avec le mobile, qui sont pas encore 100% très clairs, mais dont on va sans doute entendre un petit peu plus parler à l'E3. Il y a une manette Pokéball qu'on peut utiliser aussi indépendamment, qui va vibrer quand il se passera des trucs, qui est vraiment une Pokéball, quoi, une mini Pokéball qui sert de manette. Enfin, c'est plein de trucs un petit peu bizarres comme ça. Il sortira en novembre, vers la mi-novembre. Je pense que ça va être un truc intéressant pour les fans de Pokémon. C'est pas un vrai Pokémon nouveau entièrement original pour la Switch. J'imagine que ça, c'est aussi en développement par ailleurs, quoi. Mais voilà, petite news à croquer pour les fans du jeu. Pokémon Quest vient de sortir. C'est un jeu qui est un free-to-play, qui est disponible sur Switch. Je vais même pas passer beaucoup de temps dessus. Mais si vous êtes Si vous avez la dalle sur les Pokémon, bah vous avez quelque chose à récupérer là aussi. Fallout 76, un petit peu plus intéressant, un teasing de deux jours amené à l'annonce de Fallout 76. Je vais vous épargner les blagues sur les 71 précédents. mais le jeu, donc, on n'a pas énormément de détails dessus encore. Il se situe dans le contexte du shelter 76, du shelter de l'abri 76, qui était l'abri qui était censé ramener l'ordre dans le monde après l'apocalypse. Pour les gens qui connaissent un tout petit peu Fallout, évidemment, Fallout, c'est un jeu dans lequel il y a eu une apocalypse nucléaire. Et il y avait énormément d'abris nucléaires qui ont été construits, et chaque abri a un numéro, et donc à chaque jeu, enfin, il y a les abris dont on a entendu parler régulièrement, enfin, il y a des abris un petit peu légendaires dans la mythologie du jeu, etc. Fallout 76, donc le 76, c'est celui qui était censé ramener l'ordre. Et là où c'est intéressant, c'est que on a eu la confirmation que Fallout 76 n'est pas un Fallout classique, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. On sait qu'il a été conçu comme une extension de Fallout 4 à l'origine, une extension multijoueur, qu'il est développé par un autre studio qu'un studio Bethesda. Et donc, on ne sait pas exactement ce que c'est. On pense à du multijoueur. Visiblement, on a eu des indices selon lesquels ça serait du multijoueur. Mais on n'en sait pas beaucoup plus. Donc, peut-être une version multijoueur de Fallout. De là à imaginer un Battle Royale, ou en tout cas un mode Battle Royale, il n'y a qu'un pas. Mais quand on sait qu'on pouvait vraiment faire de la construction dans Fallout 4, on peut se dire qu'il y aura un petit peu plus que ça. Est-ce qu'on va penser à H1Z1, DayZ, etc., ce genre de trucs? On ne sait pas, mais ça sera des informations à l'E3. On a eu un leak sur le titre du prochain Assassin's Creed avec un porte-clés qui a conduit Ubisoft à confirmer du coup le nom. Et le nom, on s'en doute, peut nous en dire beaucoup sur le jeu. En l'occurrence, on sait qu'ils appellent Assassin's Creed Odyssey. Ça fait référence à l'Odyssée, bien sûr, de l'Iliade et l'Odyssée, hein, Homer. Et du coup, on se dit que ça va sans doute se passer dans la Grèce antique. Et bah, on se dit même plus sans doute, puisque dans le teaser qu'a publié Ubisoft pour le pré-annoncer suite au leak, on pense, il y avait une image un petit peu de 300 avec Léonidas qui frappe l'envoyé perse pour le faire tomber dans le puits. Voilà, c'est pas exactement la même chose. On est sur une falaise, mais c'est quand même un gros coup de pied pour le faire tomber. On pense à Sparte, quoi. Donc, à voir, c'est un environnement qui, je pense, va en exciter plus d'un, parce que autant il y a des fans d'Égypte et des égyptologues pour Assassin's Creed Origins, autant je pense que pour chaque égyptologue ou égyptophile, il y a 10 fans de Grèce antique. C'est encore plus dans notre passif culturel occidental. Donc c'est évidemment quelque chose qui va nous évoquer des choses, quoi. Et je parle de l'Odyssée, rien que c'est idiot, hein, mais au niveau pop culture, on pense tout de suite à Ulysse 31, par exemple, à 300, à l'histoire qu'on a évidemment tous étudié studieusement et attentivement à l'école. Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant pour ma part. Pour moi, en tout cas, je vais le suivre de près. Même si j'ai pas eu le temps de faire Origins, je me dis, peut-être que Odyssey, je me relaisserai tenter, même si c'est un an après le précédent. Pourquoi pas? Bref, on en saura plus à l'E3, là également. Là, on arrive dans le domaine des super rumeurs, hyper rumeurifiques. Devil May Cry 5 pourrait être annoncé. On a eu un nom de domaine qui a été déposé par l'intermédiaire d'une société qu'utilise souvent Capcom. Donc, peut-être une annonce pour Devil May Cry. Ça fait, je crois, 10 ans qu'on n'a pas eu de Devil May Cry. Donc, ça serait intéressant de voir ce que devient la franchise. Moi, je suis très intrigué par ça également. Et à mon avis, c'est le genre de jeu qui peut genre être annoncé et sortir tout de suite dans l'année. Donc, Voilà, intriguant là aussi. Et puis, on a eu une série d'autres rumeurs pour la Switch, avec des jeux qui sortiraient, qui arriveraient sur la console. Fortnite, Dragon Ball FighterZ, Paladin. Bon, Paladin, je pense que ça intéressera pas forcément énormément de monde. Mais Fortnite, c'est pas si surprenant que ça, puisque Fortnite est absolument partout. Dragon Ball FighterZ, oui, intéressant. Puis bon, il y a d'autres petites choses, Overcooked 2, etc., qui sont Dragon Ball Xenoverse 2. Le Dragon Ball Xenoverse 2 est déjà disponible sur la console, et comme il a eu pas mal de succès, bon, à voir. Donc voilà pour les rumeurs de l'E3. On va continuer avec des petites news un petit peu plus rapides. Et puis avant ça, je vais quand même vous livrer mes impressions rapides sur Detroit Become Human. J'y ai joué donc quelques heures. J'ai pas joué non plus jusqu'à la fin, donc prenez les impressions pour ce qu'elles sont. Mais j'avoue que j'ai été assez agréablement surpris par les réactions par rapport au jeu. Je pensais que bon, David Cage et Quantic Dream, leurs jeux sont toujours un petit peu, comment dire, soit on les aime, soit on les déteste. Encore que autant il y avait des gens qui aimaient Heavy Rain, autant Beyond Two Souls a été beaucoup moins bien reçu. Mais généralement, j'ai l'impression que les critiques sont très ambivalentes et on les aime autant qu'on ne les aime pas, ces jeux-là. Moi, j'avais pas énormément accroché à Heavy Rain, mais j'avoue que j'ai l'impression que Detroit Become Human est l'aboutissement de, ou pas l'aboutissement, en tout cas une évolution importante de la formule. C'est encore une fois la même formule. C'est un jeu très cinématique, très narratif, à la limite du visual novel. Il y a très très peu de gameplay. C'est plus la narration qu'on va explorer et les choix qu'on va faire qui vont être intéressants, plus que le gameplay en lui-même, puisque, encore une fois, il y a très très peu de gameplay. Et là, on est dans une version de cette formule qui, je pense, fonctionne pas mal. Alors, le problème, c'est que David Cage et son studio n'ont pas réussi à se départir des défauts de leur jeu. On a encore aujourd'hui une certaine, comment dire, un manque de subtilité vraiment dans la caractérisation des personnages. Et quand on est sur une histoire, enfin un jeu qui ne tient que sur l'histoire qu'il raconte, c'est dommage d'avoir des personnages qui sont aussi peu subtils et des tournures dans l'aventure qui sont aussi appuyées. Les reviews, même les reviews relativement positives, et il y en a eu, hein, les gens, comme je le disais, sont assez satisfaits du produit, il semble. Donc les reviews sont quand même... Tout signal souligne le fait que, bon, on n'est pas dans la plus grande finesse de narration. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même dire, mais au-delà de ça, je dois avouer que le contexte fonctionne vachement bien, c'est-à-dire que l'univers des androïdes est hyper bien construit. Pour ceux qui ne savent pas, hein, bien sûr, on joue des androïdes qui, petit à petit, se rendent compte qu'ils ont du libre arbitre et qui essayent de se libérer, en fait, de l'esclavage de l'humanité. Puisqu'au début, ils sont... dans le jeu, les androïdes sont des machines qui sont là pour servir l'humanité. C'est un parallèle, là encore, qui n'est pas très subtil, avec des époques plus sombres de notre histoire. Et le truc, c'est que l'univers est hyper bien construit, le contexte est crédible, tout est conçu comme, je crois que c'est comme ça qu'ils l'ont vu, qu'ils l'ont imaginé, ce jeu, une série de scènes pour lesquels ils ont dû construire la scène comme on construirait une scène au cinéma. Et c'est vrai que ça fonctionne, quoi. Il y a plein de petits détails qui font que le monde est crédible. Bon, on est en 2040, quelque chose comme ça, 2038. Et bon, on se doute bien que le monde ne va pas être cette version du monde dans 20 ans, mais on a quand même un truc qui est qui a plein de petits détails où on dit ah ouais ça c'est intéressant quoi, ça, ça fonctionne pas mal, c'est marrant qu'ils aient pensé à ça. Et du coup le monde, à défaut de se dire bah c'est comme ça que ça va devenir, c'est cohérent, il est cohérent avec lui-même. Donc ce contexte qui n'est pas un contexte contemporain fait que ça nous sort juste suffisamment de ce qu'on pourrait attendre de réaliste pour qu'on puisse se plonger dans l'univers un petit peu plus volontiers peut-être. Donc vraiment un truc qui fonctionne pas mal. Les trois histoires, parce que comme toujours, comme souvent, on va dire, comme dans Heavy Rain, en tout cas, on a trois personnages dont les aventures vont se croiser. Les trois histoires sont, c'est bizarre parce que j'allais dire, sont bien écrites. Et je viens de dire que il y va trop à la truelle dans la narration. Et c'est vraiment cette dualité dans ce jeu, c'est que il est aussi bien qu'il est frustrant. Il y a un jeu d'acteur qui est quand même très bon en général, et une écriture qui est dans l'ensemble plutôt bien réussie. Et puis il y a des tournants de certaines scènes ou des tournants narratifs où on se dit ouais bon c'est un peu gros là, les ficelles sont un peu grosses. Donc c'est pas qu'on peut dire que dans l'ensemble il est pas bien ou bien, c'est que il a des très bons côtés et des très mauvais côtés. Très mauvais, j'exagère. Il a des très bons côtés et des mauvais côtés. Même dans la construction du jeu, le fait qu'on puisse voir le diagramme de toutes les possibilités de chaque scène à la fin de la scène, on pourrait penser que, en fait, quand on termine une scène, on voit tous les embranchements narratifs qu'on aurait pu prendre. Toutes les possibilités sont présentées sur un diagramme simple. Hein, et on voit les choix qu'on a faits et les choix qu'ont fait nos amis et les choix qu'ont fait les gens du monde entier. Eh bien, on pourrait se dire, ah bah oui, mais du coup, ça casse l'illusion, ça casse la magie du truc. Et en fait, pas du tout. Moi, ce que ça m'a fait, c'est que, de là que, quand je faisais ce genre de jeu, j'avais toujours l'impression que, bah, j'avais compris plus ou moins ce qu'il fallait, ce que je pouvais faire, et donc, il y avait une ou deux autres possibilités, mais c'est tout. Et ben en fait, non. Là, on se rend compte qu'il y a, parfois, 3, 4, 5, 10 trucs qu'on n'a pas fait, même plus. Et qu'il y a des vrais embranchements et les vraies conséquences de ce qu'on a fait ou de ce qu'on n'a pas fait. C'est étrangement le fait de ramener devant les yeux du joueur tous ces choix possibles, ça, je trouve que pour moi en tout cas ça enrichit l'expérience plus que ça ne spoil la magie du truc. Donc je suis assez positivement surpris par les choix qu'ils ont faits. Je pense que c'est vraiment un raffinement de la formule. Il y a encore du travail dans l'écriture pour proposer quelque chose de vraiment, vraiment intéressant ou de vraiment, comment dire, abouti, on va dire. Ils sont encore dans la recherche de comment peaufiner cette formule. Mais là, on est déjà à un stade, je pense, qui est assez satisfaisant. Alors, bien sûr... comme on le sait, hein, je le répète, mais on le sait, c'est un jeu narratif. C'est pas un jeu qui va... Si vous aimez les jeux de gameplay, bah, c'est pas un jeu pour vous. Il faut pas être quelqu'un qui n'apprécie que, je sais pas moi, les jeux comme Celeste ou Devil May Cry ou ce genre de trucs. Et puis, aller jouer à Detroit Become Human et puis se plaindre qu'il n'y a pas de gameplay. C'est vraiment un truc qui est écrit sur la boîte, presque. Donc, voilà. Ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais si vous appréciez ce genre de choses, ce genre d'expérience, j'ai envie de dire, bah, c'est peut-être un truc auquel il faut jeter un coup d'œil avant que ne s'abatte l'avalanche de l'E3, parce que c'est un jeu qui n'est pas inintéressant du tout. Et encore une fois, le contexte fait beaucoup. La manière dont ils ont construit ce monde est intéressante. Donc, bon, en plus, moi, je suis en train de lire ou d'écouter plutôt en audiobook iRobot de Asimov. Donc, je suis vraiment en plein dans cet univers. Et très intéressant, d'ailleurs, la manière dont iRobot est daté. Il faudrait que j'en parle à un moment, peut-être que je ferai un positron sur le sujet, mais très intéressant cet aspect-là. Mais donc, dans cet univers d'androïdes qui sont plus ou moins conscients et qui pensent, c'est une expérience qui n'est pas négligée, quoi, Detroit. Bon, encore une fois, moi, j'en suis à quelques heures de jeu. Je verrai comment ça évolue avec la suite de ce jeu. Donc voilà pour mes impressions rapides sur Detroit. Et puis, donc, on conclut avec quelques news. La PUBG Corp, donc la société qui développe PUBG, a intenté un procès à Epic pour Fortnite, qui, selon eux, aurait trop de similitudes avec PUBG. Alors, ils en avaient déjà parlé il y a plusieurs mois, et tout le monde leur avait ri au nez. Le problème, c'est que, enfin, on est vraiment dans la même situation. Là, c'est un procès qui a été intenté en Corée, donc la boîte PUBG étant coréenne, peut-être qu'ils auront un juge favorable, mais le truc, c'est que les concepts de gameplay ne sont pas copyrightables. Tout ce qu'on peut faire dans le jeu vidéo, c'est mettre des trademarks, c'est un type de protection un petit peu différent, sur des personnages ou des histoires spécifiquement, ou ce genre de choses. On ne peut pas copyrighter ou protéger un principe de gameplay. C'est comme du code ou une recette ou de la mode. On ne peut pas copyrighter un vêtement. Et ça s'applique bien sûr dans tous ces domaines, mais c'est le cas aussi dans le jeu vidéo. C'est pour ça qu'on a eu, bah, à la suite de Doom, on a eu tout un tas de... Ou de Wolfenstein, on a eu plein de FPS. À la suite de Street Fighter, il y a eu tout un tas de jeux de combat qui se sont développés, etc., etc. Donc, a priori, il est peu probable que PUBG ait un vrai... comment dire... des vraies chances de gagner ce procès. À moins qu'ils essayent de dire... Enfin, j'en sais rien. Moi, je ne suis pas avocat, mais genre... c'est une île et on arrive sur l'île en parachute ou plus ou moins en glider sur Fortnite. Donc sur ces principes, ils ont copié. Ok, peut-être, je sais pas. Mais sur l'idée que on est 100 personnes et qu'il faut, il n'en reste qu'une à la fin, évidemment. Enfin, évidemment, j'en sais rien, mais a priori, c'est vraiment pas un truc qui pourrait faire protéger. Au-delà de ça. Il est quand même amusant de noter, comme on l'avait fait au début, de noter que PUBG se plaint qu'on le copie. Alors, on peut comprendre, parce que Fortnite a tellement de succès qu'ils doivent l'avoir mauvaise chez PUBG, mais c'est marrant de voir que leur jeu, qui est quand même dérivatif de tous les mods qu'avait créé Brendan Greene, donc c'est le créateur de ces mods, mais quand même, de tous ces jeux qui avaient été créés, de tous ces mods qui avaient été créés avant, et de plein de d'autres jeux comme, bah, je les évoquais, les Survival, les Ark, les H1Z1, les Daisy, etc. Il y a quand même un petit peu d'inspiration de ça. Ça a été accéléré en une partie de 20 minutes, mais il y a quand même de l'inspiration là aussi. Et puis surtout, du film Battle Royale. Et si on veut aller à l'inspiration de l'inspiration, la série de livres Mockingjay, enfin bref, vous savez de quoi je parle. Les livres pour Young Adults avec Larcher. Ah, il y a des gens qui sont en train de crier sur leur podcast là. Ah, bon, bah ça me reviendra à un moment. Vous savez quoi, je vais le googler parce que c'est pas possible. Oui, oui, calmez-vous, je sais. Ça va arriver. The Hunger Games, voilà. Donc, Hunger Games aussi, enfin bref. Et on peut vraiment dire qu'il y a beaucoup d'inspiration derrière PUBG, donc le fait qu'ils se plaignent que quelqu'un les copie, surtout que, évidemment, c'est pas les seuls à les copier chez Fortnite, donc est-ce qu'ils vont... Ils s'attaquent à celui qui a énormément de succès, mais bon, bref. On va pas refaire tous les commentaires qu'on a fait la première fois qu'ils ont évoqué la chose. Steam Link, l'application qui vous permet de vous connecter à votre librairie Steam depuis un appareil mobile ou une box, eh ben, il est arrivé sur Android, mais pas sur iOS ou sur tvOS, ce qui m'emplit d'une tristesse infinie, puisque moi je suis plutôt du côté Apple, de la mobilité, et en fait c'est visiblement un refus d'Apple, qui avait au début accepté l'application. En fait, Valve l'a soumis, Apple l'a accepté le lendemain. Deux jours plus tard, Valve annonçait l'application qui allait arriver. Et quelques jours plus tard, Apple refusait l'application. Alors, on peut se douter que c'est parce que c'est en quelque sorte un service concurrent, c'est-à-dire qu'on peut acheter les jeux sur Steam et y jouer sur Apple TV ou sur téléphone ou etc. C'est cette vision que prend Apple pour justifier le refus, d'après ce qu'on a entendu. Je peux comprendre, même si ça me déçoit énormément. D'un autre côté, ce que dit Valve, c'est que c'est juste une application de déportage de desktop, comme il y en a déjà énormément sur l'App Store. Et c'est une vision qui est valide aussi. Mais bon, bref, donc visiblement, c'est un problème qui ne va pas être résolu. Et donc, on n'aura pas le Steam Link sur nos appareils Apple, ce qui est quand même bien triste. À suivre. La PlayStation 4 arrive dans la fin de son cycle. C'est le président de Sony qui a dit ça. Alors, prenons-le pour ce que ça veut dire. C'était lors d'un appel avec les investisseurs et c'était une mention du fait que... Attendez, je vais essayer de retrouver le terme exact. Hop. Alors, c'est John Codera qui a dit « The PS4 is entering the final phase of its life cycle », donc la dernière phase de son cycle de vie. Certains pourraient penser que « Oh mon Dieu, ça veut dire que la PlayStation 5 va être annoncée demain ». Alors non, pas du tout. Déjà, on sait qu'il n'y aura pas d'annonce de matériel à l'E3, donc ça, déjà, c'est réglé. Mais surtout, le cycle d'une console comme ça, c'est presque 10 ans. La PlayStation 3 avait fait 8, je crois, 8 ans. Enfin, on était à 7 ou 8 ans. Il est très probable que Sony veuille pousser le cycle de la PlayStation 4 autant que possible, puisque, bah, comme on l'a dit à de nombreuses reprises, la PlayStation 4 est très en avance sur ses concurrents. Donc, ils vont essayer de tirer parti de cette avance aussi longtemps que possible. Donc, on peut imaginer que là, on est à quoi 5 ans de vie des consoles de cette génération. On peut bien imaginer qu'on en aura pour minimum 8 ans. Moi, j'aurais même tendance à penser possiblement un petit peu plus. Donc, au moins 3 ans avant la sortie de la prochaine PlayStation, je pense. Ça nous amènerait à 2021, ça serait cohérent. Peut-être une annonce 2019-2020 et une sortie 2021. 2020-2021, quelque chose comme ça. Moi, je verrais bien, simplement parce que Sony a tellement d'avance, je les verrais bien pousser à 2021 pour la sortie. Donc, la fin de cycle, ça veut dire que le marché est mature, que les consoles sont installées et qu'ils vont maintenant pouvoir faire beaucoup d'argent sur les jeux puisque la console est rentabilisée, le développement est rentabilisé. Et ils peuvent se goinfrer pendant les années qui viennent. À mon avis, c'est plus ça, la fin du cycle de vie de la console. Ils ont donné quelques autres chiffres. Il y avait donc 80 millions, bon 79 millions de consoles distribuées à la fin de l'année fiscale, donc fin mars. Il y avait 80 millions de monthly active users aussi au 31 mars sur le PSN. Donc si on compte PlayStation 3 et PlayStation 4 et Vita pour ceux qui sont les plus généreux. Et 34 millions, donc un petit peu plus d'un tiers, presque la moitié à vrai dire, d'abonnés PlayStation Plus. Là encore, comme c'est nécessaire pour jouer en multi sur PlayStation 4, ce chiffre va sans doute augmenter. Et voilà, donc il y a des services qui prennent de plus en plus d'importance. Et d'ailleurs, Codera mentionnait le fait que pour faciliter la culbute d'une génération à l'autre où les bénéfices chutent, bah, parce qu'on vend les consoles presque à perte pendant les premières années pour installer le parc et ensuite vendre des jeux, et ben ils vont pousser de plus en plus sur les services. Alors ça veut dire certainement le PlayStation Plus, mais peut-être d'autres choses également. On ne sait pas du tout quoi. Il y a plein de gens qui ont dit, qui sont arrivés avec des scénarios catastrophes. Bah, attendons un petit peu de voir. On ne sait pas du tout ce que ça veut dire. Peut-être que c'est simplement pousser le PlayStation Plus, mais ou proposer une version plus du PlayStation Plus. Je ne sais pas, avec d'autres choses, avec le streaming à terme quand l'infrastructure pourra mieux le supporter ou ce genre de choses. Je ne sais pas. Mais voilà pour les nouvelles de la PlayStation 4 et son, entre guillemets, fin de cycle. Nintendo a sorti ou est en train de sortir une Switch moins chère au Japon, sans dock et sans anime. Alors, C'est, on peut un petit peu se demander pourquoi, mais il y a plusieurs raisons à ça qui font que ça marche au Japon. D'une part, au Japon, on a souvent des maisons un petit peu plus petites avec beaucoup de gens dans les maisons. Il y a souvent les parents, les grands-parents qui vivent ensemble. Donc la télé n'est pas forcément libre. Et donc, peut-être qu'on veut l'utiliser en mode portable, la Switch, et donc pas besoin de dock. Et en plus de ça, on passe beaucoup, beaucoup plus de temps dans les transports au Japon que dans les autres pays. Donc, en mode portable, c'est encore plus intéressant. Et puis, ça peut faire une deuxième ou une troisième Switch. On a déjà un dock, donc ça fait une deuxième Switch qu'on peut utiliser quand la première est pas dans le dock ou ce genre de choses. Donc voilà, je pense pas que ça arrivera... que ça arrivera en Europe de sitôt, ce bundle. Et puis surtout, on économise quasiment rien. On économise genre la moitié du prix que coûterait un dock et une alib. Donc voilà, c'est pas hyper intéressant. C'est vraiment des cas spécifiques, on va dire. Et peut-être que ça s'appliquera à certains d'entre vous, mais moi, je le vois pas arriver de sitôt. Epic a annoncé qu'ils allaient mettre 100 millions de dollars dans les 12 prochains mois dans l'e-sport. Pour Fortnite, 100 millions de dollars, c'est un petit peu, un petit peu énorme. Alors, les commentateurs ont dit que en 2017, les 10 jeux, les 10 plus gros jeux d'e-sport avaient donné 91 millions ensemble. Genre, tout combiné, ça fait 91 millions et donc que Epic va donner 100 millions. Moi, j'avais l'impression qu'il y avait un petit peu plus du côté de Dota et League of Legends, genre que 100 millions, c'était pas totalement inimaginable. Mais dans tous les cas, 100 millions aussi vite, ça montre d'une part que Epic fait beaucoup d'argent. et enfin, imaginez-vous quoi, 100 millions, c'est monstrueux. On peut se dire que c'est ce qu'ils ont engrangé en deux semaines. Voilà. Mais surtout, c'est quelque chose d'intéressant pour l'e-sport du jeu. Enfin, ils sont à fond derrière. Et c'est un petit peu ce qui fait défaut à PUBG. Ils sont trop petits, ils ne sont pas aussi... actifs pour le développement de PUBG, alors que Epic, c'est ce qu'on dit depuis le début, ils sont tous les mois, il y a un truc qui se passe, le jeu est hyper dynamique, etc. Et là, c'est encore un exemple de ça. On a souvent dit que l'e-sport, ça serait sans doute difficile à mettre en place pour un jeu en Battle Royale, un jeu de mode Battle Royale. Mais en fait, en y réfléchissant, on peut trouver des formules. Et puis, ils disent, on veut faire des choses qui célèbrent la communauté et l'inclusivité des joueurs dans notre jeu. Donc, peut-être qu'ils auront des types de compétitions un petit peu différents. Et puis même, je suis sûr qu'ils peuvent trouver une formule qui fonctionne. Oui, on va pas suivre l'aventure d'une personne, mais s'il y a des gens un petit peu célèbres qui se font un nom dans la compétition, dans l'e-sport, dans Fortnite, ben on peut imaginer une compétition avec 100 personnes. Et puis, bah oui, on en suit un, celui qui est le plus célèbre. Et puis, s'il se fait tuer, eh ben, on va suivre celui qui l'a tué. Ne serait-ce que ça, c'est genre, ah, c'est le mec qui a tué celui qui est le plus fort ou le plus connu. Donc, ça met de l'enjeu dans l'e-sport aussi. Et puis, je suis sûr qu'il y aura plein d'autres formules possibles et les gens d'Epic trouveront un moyen de le faire fonctionner. Donc, bref, 100 millions, c'est assez monstrueux. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Des petites news encore plus rapides. Yakuza, le reste de la saga va arriver sur PS4. J'en parle parce que j'ai aussi j'ai testé la démo de Yakuza 6 et c'est marrant parce que autant ça commence en mode AAA, autant quand on prend la main enfin après je sais pas peut-être 2 heures de jeu où on touche quasiment pas le jeu. On se rend compte que bah, c'est une beaucoup plus petite équipe qui développe le jeu. Donc les animations, les personnages sont un petit peu plus rigides, on va dire, en étant gentil. Mais c'est hyper intéressant de voir cet aspect du Japon et je comprends un petit peu pourquoi le jeu plaît. C'est vrai que c'est un jeu, en plus même au niveau gameplay, dans les combats et tout ça, c'est un jeu qui a énormément de charme. Donc, quand j'aurai le temps un jour, dans mes vieux jours, peut-être que je jouerai à Yakuza. Mais pour les fans, toute la saga ou presque sera disponible sur PS4 à terme. Alors, j'imagine qu'ils feront moins de travail sur les, je sais plus, c'est 2, 3 et 4, que sur les derniers qui sont sortis sur, Oui, c'est 3, 4 et 5 que sur les derniers qui sont sortis en version Super Remaster. Star Citizen a un bundle qui vous permet de tout acheter sur le jeu. Et le bundle coûte 27 000 $. Alors, Star Citizen, vous savez, hein, un jeu qui est en développement depuis, je sais plus, des années. Ils ont levé 185 millions de dollars jusqu'à maintenant. Et maintenant, on sait même pas, en fait, vraiment où ils en sont. Si, je crois que c'est 185 millions de dollars. Le truc, c'est que ça fait évidemment ricaner ou pleurer les gens qui suivent l'actualité du jeu, parce que ils en demandent toujours plus. Et 27 000 $ pour avoir tout ce qu'il y a dans un jeu, je comprends que c'est un peu limite, quoi. En même temps, s'il y a des gens qui sont dans le jeu depuis, parce qu'il est en développement, oui, il est tout pourri, mais il est quand même là, et puis il y a des gens qui sont prêts à continuer à donner de l'argent. Bah, on revient presque à l'histoire de l'iPhone 10. Oui, enfin, 27 000 $, ça me paraît complètement ridicule pour avoir tous les trucs du jeu, enfin, même pour mettre dans un jeu. Mais, je sais pas s'il y a un type qui est, ou une nana qui est hyper riche et qui veut tous les trucs de ce jeu auquel il croit vraiment. Je pense pas qu'on puisse dire que c'est de l'arnaque, quoi, ou de l'extorsion, ou, enfin, c'est le choix de la personne de se dire, je veux tous ces trucs pour ce prix-là et je suis prêt à le payer. On force personne, encore une fois, donc. Je sais pas, moi, je suis un petit peu ambivalent, quoi. Ça me fait, évidemment, ça me fait un petit peu, même pas sourire, mais enfin, ça me fait pas vomir non plus. Mais je me dis, mais enfin, qui va mettre cet argent ? Et c'est un petit peu sale de la part de Roberts. Mais c'est pas à moi d'aller juger combien va mettre un joueur dans ce jeu auquel il croit. Je suis un petit peu sur cette position. Je faisais la référence à l'iPhone 10, qui, oui, est cher pour un smartphone, mais s'il y a des gens à qui ça fait plaisir, qui ont envie, qui, pour les, même si c'est un smartphone pourri, c'est pas, je faisais le parallèle avec une voiture. Il y a des gens qui mettent, je sais pas, 100 000 ou 200 000 € dans une voiture, alors qu'une Clio à 25 roule aussi bien, ou qui vont acheter un sac à 3 000 €, alors qu'un sac à 200 contient aussi bien leurs affaires. Voilà, bon, il y a des gens qui font ce genre de choix, et moi, je ne les comprends pas, mais je pense que tant qu'il n'y a pas d'arnaque vraiment, ce n'est pas quelque chose qu'on peut juger, comme j'ai vu certains juger et dire « ça devrait pas arriver, ça devrait pas exister ». Bon, ensuite, on peut s'en moquer, ça, je crois que c'est de bonne guerre. tiens, de trucs dont on peut se moquer, des vieilles consoles, il y en a deux. L'Intellivision va revenir également. L'Intellivision, après l'Atari, après la NES, la Sega, la Neo Geo, Intellivision a annoncé qu'ils vont également suivre la tendance des mini-consoles qui surfent sur la nostalgie. Eh ben, je serai le premier à dire « Non, mais enfin, c'est quoi cette connerie ? Qui va acheter ça ?» Mais j'étais le premier à dire ça sur la console Atari. L'Atari, qui était l'Atari Box, comme on connaissait le projet sous le nom d'Atari Box à l'époque. Maintenant, c'est l'Atari VCS. Eh ben, ils ont levé 2 millions de dollars déjà. Bon, c'est une campagne de précommande, en fait, sur Indiegogo, hein, en quelque sorte. Mais sur leur financement participatif Indiegogo, vous savez quoi ? Non seulement ils ont réussi, mais en plus, moi, en regardant ça, je me dis, en fait, le projet est pas si mal que ça. Encore une fois, moi, je vais jamais aller mettre de l'argent là-dedans, mais la console, elle est pas trop moche. C'est une sorte de rétro-futuriste assez sympa. On va pouvoir jouer aux jeux Atari, bien sûr, mais ça va aussi faire des jeux un petit peu plus puissants, lecteurs de médias, enfin, ce genre de choses. Et la présentation du truc est vraiment réussie. Allez voir la vidéo, franchement. Je pense que vous seriez un petit peu sceptique. Vous regardez la vidéo et vous vous dites « Ah bah ouais, pourquoi pas, en fait ?» C'est vrai que c'est une console légendaire, c'est vrai que ça joue à fond sur la nostalgie, machin, mais pourquoi pas, vraiment. C'est dans cette catégorie de trucs, c'est pas pour moi, comme la NES Mini, comme la Sega Mini, comme le truc. mais je comprends qu'il y ait des gens qui peuvent être intéressés par ce genre d'appareil. Et bon, 2 millions, c'est beaucoup, mais c'est pas qu'ils vont en vendre des centaines de milliers non plus. Il va y avoir quelques milliers, quelques dizaines de milliers de gens qui vont acheter le truc. Et puis voilà, et puis ça sera un produit comme ça. Alors attendez, 2 millions, elle coûte $200. Ça fait combien? 10, 20, 30... Non, 10, 100, 1000, 10 000, voilà, c'est à peu près quelques... Voilà, on est dans ce genre d'idées, quoi. Cet ordre d'idées. Peut-être qu'ils vont en vendre quelques dizaines de milliers, et puis voilà, ça sera déjà pas mal pour eux. Mais j'ai été un petit peu sarcastique sur l'Atari Box, et puis là, je reviens un petit peu sur mon jugement, parce que non seulement, bah, visiblement, ils ont réussi leur campagne, mais en plus, bah, y a clairement des gens pour s'intéresser à la console. Et elle n'est pas si pourrie que je pensais. Regardez la vidéo, hein, vraiment, c'est un design qui est séduisant, on va dire. Donc peut-être que l'Intellivision aussi réussira son coup, pourquoi pas. C'est une console qui est encore plus légendaire, bon, encore plus limitée, mais encore plus légendaire peut-être... Non, pas plus légendaire que l'Atari, mais qui est venue avant, donc voilà. Et ça va être tout pour notre petit épisode mini solo de avant E3. Avant de se quitter, je voudrais vous parler très rapidement d'un épisode que j'ai fait pour mon émission Pixels, qui est une émission sur le jeu vidéo, mais en anglais, qui est disponible. Bah, elle s'appelle Pixels, vous pouvez la rechercher sur votre application de podcast. Parce qu'il y a des auditeurs du rendez-vous jeu qui m'ont dit que ça pourrait intéresser les auditeurs du rendez-vous jeu. C'est des auditeurs de Pixels aussi. C'est une émission spéciale que j'ai fait avec une classe de... Alors, c'est fifth grader en anglais, donc ils ont 11-12 ans. Et on a parlé pendant, je sais plus, 30 minutes de jeux vidéo et de la manière dont ils font... ils approchent le jeu vidéo, de la manière dont ils considèrent les jeux. Alors, évidemment, on a beaucoup parlé de Fortnite... Mais c'était hyper intéressant, c'est leur prof qui m'a contacté il y a quelques semaines de ça pour me dire qu'ils avaient des étudiants qui pourraient être intéressés par l'idée, enfin des élèves qui pourraient être intéressés par l'idée de parler de la manière dont ils jouent. Et vraiment, c'était hyper intéressant. Moi, j'ai été très surpris de leur réaction. Je vais vous donner un exemple, mais ils m'ont dit, je leur demandais, est-ce que vous achetez des skins, alors sur Fortnite, hein, mais sur tous les jeux. Est-ce que vous achetez des skins? Est-ce que vous êtes client de ce genre de trucs? Est-ce que vous savez ce que c'est que les loot box, etc.? Et leur réaction a été hyper encourageante. Ils me disaient oui, on achète des battle pass, bien sûr, mais on a aussi on achète des skins de temps en temps. Mais pas trop, et c'est là que ça devient intéressant. Mais pas trop parce que si on se lasse du jeu, les skins seront perdus. Donc, bon, je vais pas trop en acheter non plus. Et cette conscience de ce qui, là où ils mettent leur argent, que peut-être des gens plus matures ou plus adultes n'ont pas, m'a vraiment surpris. Et ils avaient quand même ce recul sur pas mal de sujets dont on a discuté, avec cet enthousiasme, bien sûr, adolescent sur Fortnite, dont ils sont hyper fans. Donc, moi, ça m'a vraiment surpris, et je pense que ça pourrait vous intéresser. Donc, bref, c'est le dernier épisode disponible, là, du podcast Pixels. Donc, si vous parlez anglais, peut-être que cet épisode pourra vous intéresser. Allez vous y intéresser sur votre app de podcast. Encore une fois, ça s'appelle Pixels. Mais écoutez, ça va être tout pour cet épisode. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, Facebook, Instagram. Je m'appelle NotPatrick sur toutes les plateformes. Venez commenter sur frenchspin.fr pour si j'ai dit des choses intéressantes ou des bêtises dans cet épisode. Vous pouvez venir, bien sûr, laisser des commentaires. Et puis, bah, pour la suite, ça va être l'épisode spécial E3. Alors, pour les conférences, je les commente en anglais avec mon ami Scott Johnson en live. Donc, suivez-moi sur Twitter, vous aurez les infos là-dessus. On sera en live sur quasiment toutes les conférences. Alors, au milieu de la nuit, bien sûr, mais on passe vraiment un bon moment ensemble dans ces moments-là. Si vous avez accès au Slack du Patreon du rendez-vous tech, eh ben, les petits gars du Slack passent également de bons moments ensemble à commenter en live, en chat, toutes les conférences. Donc, vous pouvez aller faire un petit tour là-bas si vous y avez accès. Vous êtes Patreon au niveau du Slack et vous pouvez aller faire un petit tour là-bas. Moi, j'y passerai certainement un petit peu également en commentant en anglais si j'ai le temps. Et puis, bien sûr, il y aura l'épisode spécial E3 où on va résumer tout ça dans juste à la fin des conférences. On vous fera un résumé de toutes les conférences. Donc, si vous avez raté quelque chose, vous pouvez être sûr d'entendre tout ce qu'il y a à entendre sur le sujet. Je pense que ça sera mercredi, peut-être mercredi de la semaine prochaine, juste à la fin des conférences. On essaiera d'attendre celle de Nintendo pour voir un petit peu comment ça se passe du côté de Smash Bros et du reste. Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté et puis je vous donne rendez-vous dans une dizaine de jours, quelque chose comme ça, pour l'épisode spécial E3. Je suis déjà tout excité. Merci à vous tous, à très vite. Et merci d'avoir supporté l'épisode parisien. Allez, ciao, ciao.